l'unanimité prévalait.
Tout à fait, c'était un consensus très très fort, justement depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on va avoir l'idée, prenant acte du fait que dans un certain nombre de quartiers, les services publics ne sont pas à la hauteur. Et ça va être l'idée qui va se développer en France et qui est nouvelle, qui est finalement d'une forme de discrimination positive, en disant bah il faut mettre plus de moyens sur des quartiers, sur des populations qui ont plus de difficultés. Je dirais l'idée n'est pas forcément mauvaise en soi, je dirais elle est plutôt même généreuse. Sauf que on est dans une période dans laquelle le tournant de la rigueur, en 84, vous souvenez, il y a un tournant de la rigueur important. C'est-à-dire qu'on change un petit peu les manières de faire de l'État ou de faire de l'administration. C'est-à-dire qu'on a une réduction des moyens de la puissance publique. Une réduction drastique des services publics. Et un des paradoxes, pourrait-on dire, de la politique de la ville, c'est qu'on va remettre des enseignants, des infirmières, des médecins dans un certain nombre de quartiers difficiles. On va en mettre 3, 4, alors qu'on en a enlevé 10 sur crédit de droit commun. Va se développer une nouvelle philosophie de l'État, une nouvelle territorialisation de la question sociale, c'est-à-dire qu'on va plus penser la question sociale comme une question de conflictualité sociale, d'inégalité sociale, mais comme quelque chose qui est territorialisé. C'est le problème d'un certain nombre de territoires qui cumulent des handicaps, par exemple. Mais c'est aussi toute cette idée qu'à partir du moment où on a des territoires qui sont sur des handicaps, on va glisser très facilement du handicap à la responsabilité individuelle. Et là, on retombe sur l'image directe du fil, c'est-à-dire finalement chacun est entrepreneur de sa propre existence. Une vieille idée libérale, finalement.
C'est l'idée de Nanar.
C'est l'idée de Nanar, et ce n'est pas un hasard si Nanar sera justement mais l'un des premiers ministres de la ville.
Alors, mais quel lien entre tout ce qu'on est en train de se raconter là, c'est-à-dire l'histoire des quartiers, de la réhabilitation, de l'habitat, etc., et le thème de votre bouquin sur la sécurité?
Justement, tout ce qui se passe durant les années 80, c'est l'expérimentation, ou en tout cas au travers de l'ensemble du terme générique des politiques de la ville, qui est une forme, l'une des manières d'appréhender cette thématique-là. Cette thématique-là, on va le voir, bascule clairement au tournant des années 90, c'est-à-dire que cette idée qu'il y avait un certain nombre de causes sociales au désordre, et que agir simultanément sur l'ensemble de ces causes sociales ferait disparaître les désordres, je dirais, est ruiné politiquement et médiatiquement par les émeutes de Vaux-en-Velin en 1990.
En France, les clignotants virent au rouge. Vol, drogue, immigration clandestine.
Urbanisme sauvage, béton, grands ensembles.
Les crimes et délits ont augmenté de 4,27% en 89.
Vaux-en-Velin, qui comme Vénissieux, a longtemps traîné derrière elle l'image de la cité dortoir.
Une voiture brûlée, une de plus.
Principaux responsables, la délinquance liée à la drogue.
Une banlieue dont les habitants sont en majorité des immigrés.
L'immigration clandestine, les vols de voitures et les vols à main armée.
De brigades anti-criminalité.
Trop tard, les dealers ont réussi à disparaître dans l'obscurité.
Il s'agit de super gardiens de la paix.
Une quarantaine de jeunes ont incendié des voitures et brisé des vitres.
Deux femmes ont été attaquées à coups de couteau.
Aussi, quand on sait que Vaux-en-Velin avait bénéficié d'une politique de développement social des quartiers.
La tour d'escalade, inaugurée la semaine dernière, devait couronner ce succès. En deux jours, les espoirs se sont envolés. Alors aujourd'hui, on essaye de comprendre.
On continue avec Laurent Bonelli, La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité. Là, Laurent, c'est Vaux-en-Velin, c'est 1990.
En 1990, bon, Vaux-en-Velin, bon, il faut savoir d'abord ce qui déclenche la crise, ben, c'est la mort d'un jeune qui est tué dans un choc avec une voiture de police. Thomas Claudio, qui meurt sur le choc. Et là, donc, le quartier s'embrase, je dirais un peu comme d'habitude. Et, alors en plus, cet événement sera suivi, je dirais, donc là, on est en 90. Entre 90 et 91, on va avoir une série, comme ça, de flambées de violence dans une série de quartiers. Donc, vous avez Sartrouville, vous avez Melun, ou pour des raisons similaires, hein, très souvent. Et on va avoir une remise en cause très profonde, politiquement et médiatiquement, des politiques de la ville. C'est-à-dire qu'on va, de manière assez paradoxale, oublier complètement pourquoi ces quartiers ont brûlé. Et on va dire, ben finalement, regardez, si ces quartiers, qui avaient reçu l'intégralité des politiques de la ville antérieures, brûlent, c'est bien que ces politiques ne servent à rien. Notamment, on retrouvera au Mas du Taureau un fameux mur d'escalade qui sera cité partout. On dira, mais regardez, ces gens ont même construit un mur d'escalade et ils brûlent tout. C'est bien vous dire que ces politiques de la ville.
Après tout ce qu'on a fait pour eux, quoi. Après ils ont bien déçu.
Après tout ce qu'on a fait pour eux, et je le rappelle, on oubliera simplement que des jeunes du quartier sont morts, ça on l'oubliera un petit peu. Et alors là, effectivement, ça va sonner dans une certaine mesure le glas de la politique de la ville comme moteur ou comme solution.